question, si effectivement l'État d'Israël n'est pas un État-nation, que devient, dans votre vision, la partie de la nation qui n'est pas dans cet État ? Les Juifs qui habitent en Israël sont un État-nation, sont dans un État-nation. Peut-être qu'une partie d'entre eux, vous avez cité les Haredim, je pense pas seulement eux, ne se reconnaissent pas dans cet État, même s'ils y vivent. Mais qu'est-ce que deviennent tous les autres ? Et qu'est-ce que deviennent ceux qui quittent cet État à certains moments, soit temporairement, soit pour toujours, par rapport à la théorie de la persévérance. Il y a comme une espèce de... les triangles seront vaincus par une autre réalité, enfin c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'il y a un exil quand même.
Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il s'appelle l'état de l'exil. C'est-à-dire que c'est l'état qui est fait, qui n'est pas fait pour le résorber. Donc l'exil, c'est le bain dans lequel l'État existe, et non pas le véhicule de son abolition. Maintenant qu'il y ait des gens qui rentrent et qui sortent de l'État d'Israël, ne change rien à sa fonction ou à sa définition. Les gens peuvent partir, revenir. La question qui se pose, c'est si tout le monde part. Effectivement, là, ce sera la fin de l'État. Ça, c'est une question, mais bon... Plutôt, on est plutôt dans une situation d'une démographie qui augmente. Bon, voilà, mais je veux dire, et c'est précisément pas un État-nation. C'est pas un État-nation, la preuve, les Haredim ne s'y reconnaissent pas, les Arabes pas énormément non plus, les Arabes israéliens pas énormément, mais c'est pas grave. C'est seulement grave si c'est un État-nation. Si c'est un État-nation, c'est très grave d'avoir des pans entiers de population qui ne se reconnaissent pas dans l'État. Mais si on repart de ma définition, on peut très bien vivre dans cet État, et ça a des conséquences sur la politique que cet État va mener, sur le rapport qu'il entretient avec les minorités. Mais politique à l'égard des minorités... qu'il comprendra presque intuitivement, puisqu'il est l'état de l'exil. Dire il est l'état de la condition minoritaire structurelle des Juifs à l'extérieur. Ça me met dans une bonne position pour savoir quelle politique mener à l'égard des minorités. Ça dispose favorablement.
Michel Toledano.
Qu'est-ce que je fais avec ça ?
Juste, ça enregistre.
Oui, Monsieur Trump, merci beaucoup parce que vraiment j'ai appris beaucoup de choses et ça va me faire réfléchir longtemps. Mais je voudrais au moins revenir sur ce que vous avez appelé vous-même votre prémisse. C'est-à-dire le premier triangle que vous avez dessiné. Bon, tout le monde l'a dans la tête ou alors il faut le remettre. Voilà.
Donc là, M. Trump, vous nous dites, Dieu a choisi Israël et a mis les nations de côté.
Dans un premier temps. C'est ce que j'ai dit avant de rétablir.
D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce mouvement-là, c'est pas celui que décrit la tradition.
Allez-y.
Je veux dire, les Midrash insistent beaucoup sur le fait que la Torah était proposée à toutes les nations du monde, que tout le monde a refusé, sauf les Juifs qui toujours doivent faire les malins. D'accord ? Et ça, c'est une tradition très longue parce que ça remonte, si vous regardez Isaïe 6, c'est l'Aftara de Yitro, le prophète Isaïe n'est pas désigné par Dieu, c'est lui qui se désigne. Donc, c'est pas comme ça se passe. C'est pas Dieu choisit Israël. Dans la tradition juive, Dieu propose, l'homme dispose.
Alors oui, non mais je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais beaucoup simplifier. Mais bien entendu que quand se fait la transaction ici, il suffit de prendre les commentaires sur Matan Torah. Hein, et les Midrashim disent,
La question c'est qui Blue Baratson ou pas.
Oui,
donc, on sait, mais enfin, on ne peut pas dire que l'initiative est venue d'ici, on est d'accord quand même que la proposition est
oui,
venue.
Oui, la proposition, mais la disposition, c'est bien
oui.
Les hommes. D'accord.
Absolument.
Et donc, Dieu n'a pas mis les nations de côté, les nations se sont mises de côté. Et ça, ça change toute la donne, parce qu'effectivement, d'accord, c'est leur choix, c'est notre choix, mais c'est bien leur choix, d'accord. Et donc, ils ne sont pas exclus. Si je devais dessiner
oui.
Votre triangle, moi, oui. J'aurais fait comme ça. Ici, vous avez Israël. À l'horizontale, Dieu. Et les nations sont disposées le long de la verticale. Plus ou moins bien. Mieux que nous, moins bien que nous. Peu importe. Un choix différent.
D'accord.
Mais vous comprenez, comme vous l'avez dit, c'est votre prémisse.
Oui.
Si on part d'un dessin comme ça, votre triangle...
D'accord. Admettons. Et oui. Est-ce que ça fait d'Israël quelque chose de moins relationnel, un phénomène moins... Parce que ce que j'en tire comme conclusion, elle est assez générale. Mais les autres ont refusé, d'accord. Mais enfin, les autres ont refusé et du coup, ils n'y sont pas. Le mot « tiers exclu » a pu peut-être
oui.
Vous gêner. Mais c'est un terme technique.
Oui, je comprends.
C'est tiers exclus, ça veut dire ils n'en sont pas. Et dès lors que la définition est bilatérale, elle, ce sont des termes qui en excluent un croisière.
Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'ils sont l'objet de la même proposition que nous, fait qu'ils sont effectivement
bien sûr.
Dans la même
oui.
Dans la même perspective, la même droite. D'en haut jusqu'en bas, ou de droite à gauche, comme vous voulez.
Mmh.
D'accord. Donc ça veut dire bien qu'on est fondamentalement liés. Je veux dire, notre humanité, elle est là, elle est présente et partagée avec tous.
Non, je suis bien d'accord. Vous
comprenez oui. Donc, personne n'a été exclu. Personne n'a
non,
été
non, mais quand exclu. Je dis exclu, je ne veux pas dire qu'ils sont exclus du monde. Je veux dire simplement non. que l'alliance... Elle est une alliance entre Israël...
Oui, mais c'est l'alliance qui est choisie par Israël et qui était proposée à tout le monde.
D'accord. Ça ne change rien, le résultat est le même.
Oui, c'est Israël qui est rejeté de Dieu.
La perspective change complètement, parce que tu n'as plus le triangle. Et c'est ça le problème pour la suite. Tu n'as plus le triangle. Tu comprends ? Le résultat, non, non. La façon dont on arrive à l'alliance est fondamentale, parce que dans ce qu'a décrit M. Trump, je veux dire... On obtient bien ce triangle, rien à dire. Ce que je propose, c'est qu'il n'y a pas de triangle, justement. Et il y avait une droite infinie comme ça.
Oui, mais alors avec votre droite infinie, comment vous décrivez la situation des Juifs alors dès lors qu'il y a l'exil ? Parce que c'est ça le but de... Vous voyez ce que je veux dire ? Quel est l'effet ?
Voilà, j'ai peur de monopoliser la parole. Ça va être une longue réponse.
Mais qu'est-ce qui arriverait ? Si dans l'hypothèse...
Non, si vous voulez,
oui.
Moi, il me semble, pour être très très court et pour ne pas vous embêter plus, ce que vous avez cité que c'était le livre de M. Baer, je crois, que Israël est sorti des nations combattantes.
Oui.
Ça, c'est exactement ce qui se passe lorsque Yaakov devient Israël. Après le fameux combat contre l'ange, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mmh. D'accord ? En étant le combattant de cette nuit-là, il est sorti du combat avec les nations. Quand est-ce qu'Israël est sorti des nations combattantes ? C'est justement au moment où il devient Israël. C'est l'étymologie même du mot Israël.
C'est vrai.
C'est...
Pardon ? Non, je ne voulais pas faire un truc. Oui. C'est comme la projection de les hommes sur les sables.
Mais bien sûr, c'est ça.
Oui, mais c'est à partir de la constitution du peuple, évidemment, qu'on a toujours retrouvé ça.
Oui, bien sûr.
Tenez. Je suis un peu embarrassé, Dany, parce que j'ai presque envie de vous suivre dans la description d'aujourd'hui. Hélas. Mais dans la proposition très générale que vous avez donnée, il y a des choses qui m'embarrassent. J'irai un peu dans le sens de Jean-Michel, c'est que la description du rapport aux nations, il y en a d'autres dans la tradition. On commençait par une des plus anciennes quand Rashi fait remarquer, dès le début, dans son introduction, son commentaire de la Torah, viendra un jour où les nations vont nous dire et nous répéter, vous êtes des voleurs. C'est connu de tous. Vous êtes des voleurs. Ouais, Canaan, il dit, j'étais là avant vous, ce qui est probablement comme ça, si l'on veut regarder historiquement ce qui est le cas. Et puis avant les... comment dire, Rashi dit oui, mais avant il y en avait des autres, mais ce n'est pas le problème. Pourquoi Dieu nous a élus ? À un moment, il vous a élus à vous, et puis vous a retiré cette élection, en tout cas cette propriété du sol. Parce que nous sommes les seuls à répondre à ses demandes à lui. Mais le jour où nous serons comme eux, vomis par la terre, nous serons aussi vomis par la terre. Donc, c'est un autre point de départ. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je répète ma perplexité. Quiconque est en rapport avec des amis, avec des parents, etc., est allé en Israël, en est revenu. C'est terrible, c'est terrifiant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, j'ai presque envie de vous dire un peu plus de détails pour que nous puissions ne pas être accablés complètement. Je m'arrête, je ne veux pas qu'on sombre dans le pessimisme absolu.
Non, mais si ma fonction est de rassurer, je...
Non, j'en rajoute.
Non, mais je comprends parfaitement. Non, mais... Je pense que la situation est... grave. Et qu'elle... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de tenter, comme des parents, d'essayer de corriger la mauvaise pente? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Enfin, quand je dis « on », je veux dire, bon, moi... Nous tous, moi, universitaires, les autres, etc., qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon une intervention qui touchera ou touchera pas ceux à qui elle s'adresse. Mais c'est pas seulement à ceux-là qu'il faut s'adresser, c'est aussi à tous ceux qui se sentent impuissants à affronter cette mauvaise pente et ces mutations. Et on sait que le gros problème, quand même, c'est le sionisme religieux. Certaines mutations du sionisme religieux, on sait très bien que c'est ni d'un bloc, que tout le monde n'est pas... que c'est pas un alignement, etc. Mais on sent bien que c'est là, par là, que, en fait, l'État risque d'être complètement détricoté et puis peut-être mener vers des affrontements internes, voire une guerre civile. Alors, ce qu'on peut faire... Il y a Yair Golan qui était de passage à Paris. Je ne sais pas si vous voyez Yair Golan, donc qui essaie de me remettre sur le héros du 7 octobre, général, qui essaie de me remettre sur pied le Parti travailliste, etc. Comment ? Voilà, et donc il a déjà, je crois, réussi plus ou moins à absorber Meretz et Avoda, et de, voilà. C'est pas, je veux pas rentrer dans la politique israélienne, c'est pas ça le point. Ce qu'il y a, c'est que quand je m'adresse à des gens comme ça, qui représentent un peu comme ce vieil establishment qui faisait son... En fait, qui avait quand même une forte conscience de s'inscrire dans cette histoire-là. Une forte conscience, oui, quand même, pour certains d'entre eux. Donc il est venu à Paris, il voulait rencontrer quelques personnes, et puis on est resté comme ça à 3-4 à bavarder avec lui. Alors, C'était du temps de c'était juste après le 7 octobre et on a fait tous la division autour de la réforme judiciaire en tête. Et ce que je lui disais, c'est en fait ce qu'ils ont réussi à faire, c'est se réapproprier le drapeau. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est de se réapproprier le signifiant juif. Il est resté coincé à droite. Et le drapeau, oui, mais le signifiant juif. Je lui ai dit, vous ne savez pas parler le langage juif. Et du coup, il est monopolisé par qui ? Par ceux qui tiennent le langage de l'autre politique, c'est-à-dire la politique de sortie de l'exil. Ça, c'est facile à comprendre. Hein ? Conquérir la terre. Ça, c'est facile à comprendre. Et alors, toute la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, c'est comment est-ce que la politique en exil peut faire l'objet d'une conscience historique suffisamment forte. Parce que la politique en exil, c'est une politique juive. La politique de sortie de l'exil, c'est aussi une politique juive. Le problème, c'est que la politique de la continuation de la vie en exil est, d'une certaine manière, assez inaccessible. Mais à des Israéliens qui sont quand même des sujets produits pour avoir résolu, qui sont quand même le produit de résolution du problème juif. Donc c'est un langage qui est difficilement audible. Et pourtant, c'est le seul langage juif qu'on peut tenir. D'où le livre. C'est parler juif à une population qui, sinon, va être toujours davantage prise en quelque sorte, je dirais pas en otage parce que c'est malvenu, mais captivée par la politique de sortie de l'exil. Alors bon, pourquoi est-ce que la politique de sortie de l'exil captive ? Pourquoi ? Oui, elle captive, à mon avis, elle captive pour une raison très simple, c'est ça se voit dans Rav Kook, fils, les écrits de Meir Kahan, ça vient de toutes parts, les écrits de Teitelbaum, c'est l'incapacité, pas du tout la même chose. Ce sont des symptômes, je ne dis que ça, je ne les égalise pas du tout. Ce sont des symptômes de la crise, comme tous les messianismes ont été des symptômes des grandes crises qui ont secoué l'histoire juive. Comment ?
Les faux messianismes.
Oui, les faux, mais les faux, c'est toujours après coup, hein.
Mais le monde que tu appelles juif religieux haredi est beaucoup plus divers.
Très divers.
Dans lequel tu l'enfermes.
Très divers. Je vais te dire d'autant plus. Voilà, très divers. Et moi, je dirais même quelque chose de plus. Je pense que dans la politique de la gauche, etc., c'est aussi un messianisme. Le messianisme n'est pas toujours là où on le pense, mais Enfin, peut-être je reviendrai. Il y a, vous savez, lors de la naissance du sionisme, à la fin du 19e siècle, toutes les tendances juives s'étaient coalisées contre les sionistes. D'abord, toute la bourgeoisie émancipée qui pensait que c'était un très mauvais signal de tenir un discours d'absence d'intégration des juifs dans leur nation. Donc vous avez une réaction extrêmement hostile de tout l'establishment bourgeois de tous les rabbins de tendance réformée, mais aussi de tous les rabbins orthodoxes, parce qu'ils voyaient un risque naturellement de pousser la fin, qui est interdit, on connaît. Voilà. Il y en a un qui a fait exception et qui a été rejoindre Herzl. Et c'est le fondateur du Mizrahi. On oublie, c'est 1902 ou 4. Et c'est le rabbin...
Kalish.
Non. Reines. Et il s'est pris tout, naturellement, un énorme scandale. Donc il a rejoint Herzl, et énorme scandale. Il y a eu un livre signé par je ne sais combien de rabbins conservateurs pour le condamner, pour dire que c'était fautif. Et sa réponse est très intéressante. Donc, que dit Reines? En fait, il dit la chose suivante. Il dit, si le mouvement sioniste était messianique, je serais d'accord avec vous. Ce serait horrible, ce serait une catastrophe. Jamais je me serais joint au mouvement sioniste. Mais comme il n'a rien à voir avec le messianisme et qu'il ne vise rien d'autre que de mettre les juifs à l'abri, de les protéger, eh bien, il faut nous tous que nous contribuons au mouvement sioniste. Donc, ce que fait Reines, c'est très exactement... Bon, le mouvement que je fais dans le livre... scindé politique en exil de politique de sortie de l'exil. Reines, rabbin orthodoxe, le pense sous la catégorie politique en exil et trouve joint le mouvement sioniste. S'il l'avait mis sous la catégorie politique de sortie de l'exil, naturellement, il n'y aurait pas adhéré du tout. Simplement, ce qu'a compris Reines, c'est exactement le point du passage de la fonction. C'est ce point qu'il avait capté et qui faisait que pour lui, il n'y avait aucun problème d'aller... Donc, en 1904, il est allé au Congrès sioniste avec 3-4 autres rabbins qui l'ont suivi. Et ils ont fondé la faction Mizrahi qui a voté en faveur du plan ougandais. Il a voté en faveur du plan, ce qui est la preuve qu'il avait scindé les deux. Parce que, naturellement, si vous proposez qu'est-ce que l'Ouganda peut avoir à faire avec une politique messianique, rien du tout. Donc, le livre, là, l'état de l'exil, il se tient très exactement sur cette ligne de fracture que Reines introduit dans son ouvrage, dont le titre est là, mais où il... C'est un ouvrage polémique dans lequel il se défend des accusations qui pèsent sur lui, de trahison. Alors, naturellement, le secours en Mizrahi a connu énormément de transformations. On a cru pendant longtemps que, avec un peu... tout le sionisme, disons, laïque, mais qui soit de l'establishment de gauche, du centre, etc., il l'a accompagné et tout le monde a pris, l'a considéré un peu comme un petit frère, compagnon de route, un peu faible d'esprit, qui finirait par devenir, par se séculariser, ma foi, etc. Et ils n'ont pas vu qu'en fait, un élément... d'anti-Ascala s'est glissé à l'intérieur du mouvement sioniste, qui n'avait pas grande importance, et dont il s'est avéré qu'il s'est réveillé, disons, dans les années qui ont suivi la conquête de la Cisjordanie, et plus encore après la guerre de Kippour. Enfin, voilà la réponse. ils sont disons qu'ils ont joué, pour ce que je peux en dire, je pense qu'ils ont, d'abord ils n'ont pas créé de mouvement, ils n'ont pas été vraiment des activistes politiques, ils ont été connus pour leur perspective favorable à un sionisme qui n'était pas encore le sionisme tel qu'il va se coaguler à la toute fin du 19e siècle. Donc ce sont des auteurs plus précoces, mais on retrouve quelque chose de ça, par exemple, chez Chibat Sion. On trouve des éléments comme ça, mais ça demanderait de renterrer plus profondément dans le dossier.
David, après je vous passe à toi.
Et c'est une question à propos de la dimension territoriale dans ce nouvel état des choses post-crise ou pour parer à la crise, etc. Vous décrivez l'état d'Israël comme étant le nouveau élément qui apparaît en haut de la pyramide, du triangle. Et ce que je voudrais vous faire préciser, c'est pour qui ? C'est-à-dire, si l'État d'Israël il est en haut de la pyramide, qui seraient les Juifs et qui seraient les peuples en bas ? Est-ce que ça concerne uniquement les Juifs qui sont sous le gouvernement de l'État d'Israël ? Est-ce que ça concerne l'ensemble des Juifs ? Est-ce que ça concerne, au contraire, uniquement les Juifs qui ne sont pas sous ce gouvernement, et ceux qui sont sous ce gouvernement feraient partie du pouvoir suprême, disons comme ça. Voilà, je pose cette question parce que finalement, je pense que c'est quelque chose qu'on constate et que la politique israélienne a toujours constaté, mais qui constate davantage ces dernières années après l'arrêt du support, par exemple, de la France par rapport au programme nucléaire et toute l'ambivalence que l'Occident entretient à propos de l'État d'Israël après, que le statut de souveraineté absolue, disons comme ça, de cet État est un peu relativisé. Donc, est-ce qu'il y a une autre instance, finalement, qui occupe cette place, ou c'est toujours l'État d'Israël ? Voilà ce que je voudrais vous faire préciser.
C'est une bonne question. D'abord, une chose qui est certainement exclue, c'est que la fonction est une fonction dirigée vers les Juifs de l'intérieur.
Ça, c'est exclu.
Alors, dans la définition, si on admet que l'État d'Israël est ce que j'ai dit, c'est-à-dire le substitut, je vais le dire de manière très courte, le substitut du roi protecteur, à ce moment-là, sa fonction dans cette définition, sa fonction, elle est une fonction en direction de l'extérieur et en direction de l'intérieur, c'est une fonction qui concerne le peuple juif. Ça concerne le peuple juif. Donc, intérieur-extérieur n'a pas d'importance. Ou plutôt, intérieur, si c'était limité à l'intérieur, si l'État d'Israël n'était peuplé que de juifs, admettons. Dans ce cas-là, s'il ne s'occupait que de la superposition de sa fonction avec un peuple qu'on appellerait à ce moment-là israélien, il n'y a aucune raison de l'appeler juif, à ce moment-là, ce serait un État-nation. Or, ce n'est pas un État-nation. Donc, il s'occupe d'autre chose que de ses citoyens, des gens qui sont citoyens de cet État. Alors, qu'est-ce qu'il fait ?
Comment est-ce que ça s'incarne intérieur-extérieur? Ça s'incarne essentiellement dans la loi de retour. Qu'est-ce que c'est la loi de retour? Ce n'est pas une loi d'immigration, comme tous les États ont une loi de l'immigration. En fait, si on lit la loi de retour, la loi de retour commence par « chaque juif a droit ». Donc c'est un État qui accorde des droits à des gens qui sont à l'extérieur. Pourquoi quelqu'un qui serait extérieur de l'État aurait des droits? Normalement, les droits procèdent précisément de l'instance souveraine qui fait les lois, qui accorde les droits, définit quels sont les devoirs. Ok? Donc, ça confirme bien, je veux dire, le dispositif, c'est pour ça que c'est le dispositif central de l'État d'Israël. Hein, dans un autre texte, en fait, c'est l'État d'Israël, et la loi de retour, c'est pas que l'État d'Israël s'est donné une loi qui est la loi de retour, c'est que plutôt la loi de retour qui s'est donné un État. Donc en fait, la fonction, c'est celle qui tient ouvert. Tenir ouvert, c'est la redéfinition de la fonction de protection ajustée à l'époque. À l'époque, c'est-à-dire la suite des triangles. Ok ? Donc, non, la fonction, c'est les Juifs. La fonction, c'est en direction des Juifs. Il n'empêche que l'État d'Israël est bien un État souverain. Tout aussi souverain, disons, relativement souverain, comme le sont la plupart des États, aucun État n'est souverain. Mais bon, admettons la fiction juridique. C'est un État souverain. Il a des citoyens. Mais ces citoyens sont égaux. Donc, ils sont égaux, ils ont tous un droit de vote, etc. Je ne dis pas que tout le monde est traité, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais, on ne va pas rentrer dans le détail, mais, idéalement, c'est un État qui comprend un fragment de nation qui sont les Juifs israéliens et un autre fragment de nation qui sont les Arabes d'Israël ou les Palestiniens d'Israël qui forment un peuple avec les Palestiniens hors des frontières de cet État et parfois même hors des frontières illégales de cet État. Je veux dire hors de la Cisjordanie. Donc il y a voilà. Donc à l'intérieur, il est un espèce d'État multinational. Mais dans la fonction qu'il occupe dans la trajectoire de l'aventure des Juifs, il est le point à partir duquel s'opère la fonction qui était occupée par d'autres instances dans des configurations précédentes. Ok ? C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que je conteste le fait que ce soit un État-nation. Tous ceux qui le pensent comme un État-nation, ils s'en mêlent les pédales. Au bout de 5 minutes, ils n'y comprennent rien. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens ne comprennent pas du tout ce que c'est cette chose.
Dans ce sens, une critique, je ne dis pas qu'elle est bonne ni qu'elle est mauvaise, mais une critique du type le gouvernement d'Israël ne tient pas compte des conséquences de ses actions sur nous, juifs, en France, c'est une critique valide de ce point de vue.
Si on le pense, oui.
C'est-à-dire qu'il était censé tenir compte de ça autant qu'il est censé tenir compte des effets sur ses citoyens.
Disons qu'il est censé tenir compte, et bien entendu, quand Netanyahou a des très bonnes relations avec Orban, on est un peu embêté quand même, tu vois, ou des choses comme ça. Mm-hmm. Ou quand, je sais pas moi, Marine Le Pen va en Israël et parvient à être reçue, naturellement. Donc il y a des tensions, il y a des contradictions. Mais mais bon, c'est compliqué naturellement parce que ce sont des personnages qui se présentent aussi comme les défenseurs des Juifs. Il y a toute une dialectique un peu complexe. Ce qui est important ici, c'est le dispositif, là, pour le coup, pour l'État souverain, l'État pour les Juifs. Le pour, en fait, il est complètement résumé dans l'ouverture. Et dans le fait que ce n'est pas l'État qui accorde des droits, mais ce sont les autres qui possèdent, ce sont les Juifs, c'est comme c'est écrit comme ça dans la loi du retour. Ce sont les Juifs qui ont un droit d'entrée, avec, il y a des exceptions liées à la, dès le début, il y a eu des exceptions liées à la sécurité nationale pour tenir compte, hein, mais c'est inconditionnel. Le droit est inconditionnel. Et ce qui est très très intéressant aussi à propos de la loi du retour, c'est que quand elle a été promulguée, quand elle a été promulguée, je ne me souviens plus ce que je voulais vous dire, mais c'est à propos, c'est... Ça va revenir, ouais. En tous les cas, je rapporte dans le livre la question du débat, le débat sur la loi de retour à la Knesset. On reviendra là-dessus. Résolu. Ben-Gourion l'a enlevé de l'ordre du jour de la discussion. Et c'est pour ça qu'ils ont résolu le problème.
J'arrive à Léna Grabach.
Merci beaucoup. Pardon. Donc, en fait, le titre de l'ouvrage de Herzl, Judenstaat, c'est ça ? En allemand, c'est l'État juif, mais en fait, ça devrait être l'État des Juifs, pour les Juifs. Mmh. C'est ça ? Oui. C'est laquelle la traduction exacte
de... Ce qui est très intéressant, c'est que toutes les traductions, y compris en hébreu, ont mal traduit. C'est Claude Klein, qui est un français, mais professeur de droit constitutionnel à l'Université de Jérusalem, aujourd'hui à la retraite, qui a traduit, en tous les cas introduit dans la version qui est parue à la découverte du livre d'Herzl. Il en a fait une préface et il s'explique de la raison pour laquelle la traduction doit être pas Judenstaat, pas Jewish State, pas État juif, mais État des Juifs. Parce que des Juifs, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il voulait indiquer par là ? Il voulait indiquer que, vous savez que État et juif, mais ça ne va pas bien ensemble. Je vous renvoie à un fameux texte de Rosenzweig, au prolongement qu'on a donné Lévinas, etc. Tout le monde est très ennuyé à l'idée que juif puisse qualifier la nature de l'État. Et Claude Klein, très juste titre, dit, mais Herzl, c'est pas du tout ça, il suffit de lire son livre, c'était pas... Il disait tout simplement, il faut que les Juifs possèdent un État. Et en fait, État pour les Juifs, ben, on peut dire aussi État des Juifs, c'est pas si mal. Moi, je préfère plus, parce que ça accentue encore le caractère possessif. L'État d'Israël, c'est l'État que les Juifs possèdent. Possèdent comme quelque chose d'extérieur. Comme vous possédez quelque chose, une propriété. Vous possédez comme une propriété et ce n'est pas du tout l'État qui suppose... Et ce n'est pas l'État-nation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui suppose l'identification en tant que collectif. C'est une possession, c'est une manière d'introduire une distance. C'est simplement le fait qu'on le possède. C'est d'introduire une distance, mais presque infinie, entre,
une possibilité, en fait.
Entre juif et État.
Ouais. C'est une possibilité d'un État.
C'est la possibilité.
C'est un lien entre la galoute et l'État d'Israël.
Oui, et puis ça indique aussi le fait de...
Ouais.
Et oui, et puis pourquoi il faut en posséder un? C'était ça la question. Pourquoi est-ce qu'il faut en posséder un pour finir? On s'en est toujours passé. Donc pourquoi il faut en posséder un? La réponse est dans le dans l'exposé et dans la bonne traduction de l'essai de Herzl.
Et il y a encore.
Merci. Votre exposé est précieux parce qu'il met des mots sur un état de fait. Et on voit qu'autour de nous, c'est comme ça que pensent les gens autour de nous. Et c'est vraiment, pour moi, tout à coup, il y a une grande clarté dans le vocabulaire. Et parce que nous, finalement, on entretient un flou un peu artistique. Parce que, justement... la politique de la fin de l'exil avec tout son développé messianique, tout d'un coup, vous le distanciez de l'État, de la Terre. Et c'est ça, c'est très gênant. C'est gênant parce que tout à coup, ça, ce flou, on est obligé d'en tenir compte. Mais tout à coup, cette distance est gênante et ça remet la question à l'intériorité de chacun, là où il est. Mais c'est troublant depuis la naissance d'Israël de le penser comme ça. Voilà. Je me suis bien fait comprendre. C'est un paradoxe. Mais j'entends que cette nomination est précieuse. Elle est factuelle. Je ne sais pas les décisions qui vont comment va se jouer la politique aujourd'hui. Mais c'est précieux de pouvoir le penser. Plus clairement.
Je suis très content c'est ce qu'on ressent, mais qu'on ne.
Parce qu'on a ce flou où on relie aussi la sortie de l'exil à cette terre.
Oui. Alors, vous avez raison.
C'est même quand on est laïque.
Bien sûr. Bien sûr. Voilà, j'ai essayé de rendre justice à cet aspect dans le livre en me disant, bon, allez, j'avais poussé la logique un peu, peut-être un peu trop loin. Et à un moment, la question se posait quand même, bon, d'accord, mais alors, si ce qui est au cœur, c'est la fonction, si au cœur se trouve le problème de l'abri, mais alors... Mais pour finir, on voit bien que c'est là que ça s'est produit, et pas ailleurs. Je veux dire, le progrès ou Ganda a capoté, etc. Bon, Herzl n'a pas... Il a été en minorité de justesse, mais il a surtout laissé tomber, parce qu'il voyait qu'il allait vers la partition du mouvement, qu'il voulait garder uni. Mais après, reste naturellement la question de... Voilà. Est-ce que la mobilisation des énergies... dans le schéma que je viens d'indiquer, eût été suffisante si c'était n'importe où, si c'était une terre quelconque, sans qualité. La réponse, intuitivement, bon, on ne sait pas, on ne peut pas faire d'expérimentation en histoire, mais intuitivement, on sent bien que la réponse est plutôt non. Mais, et c'est ça qui est déterminant, d'avoir pensé que ça pouvait être là et que ça pouvait être ailleurs, conduit à penser la Terre de manière complètement différente. Complètement différente. Et c'est ça, c'est pour ça que l'épisode Ouganda est si important. C'est important que ce sont les Russes qui ont fait couler les délégués russes, mais de peu qui ont fait échouer la résolution Ouganda. Alors Herzl a dit, bon, vous savez quoi, on va envoyer des émissaires pour voir un peu si c'est faisable ou pas, un peu comme aujourd'hui on va faire une commission. Vous savez, quand vous avez enterré les dossiers, on fait toujours une commission et puis après ça, on enterre le problème. C'est ça qu'il a fait. Ils sont revenus, ils ont dispaté. Ouais, Ouganda, il y a de la jungle... C'est pas terrible, ça va être difficile. tous les problèmes que le mouvement sioniste avait, toutes les commissions techniques, agricoles, se posaient tout un ensemble de questions, et ils ont jeté l'éponge, mais enfin, c'était fait pour être rejeté. Il n'empêche, le rapport à la terre, où cela devait s'établir, elle est une question relative. Ça change absolument tout. Et ça le replace absolument, le mouvement sioniste, dans le schéma que je viens d'esquisser, plutôt que dans la politique de la sortie de l'exil, par définition.
Samuel, j'arrive juste. Samuel Eva Maëlou.
Moi, juste une petite question. Est-ce que vous avez dit que... Donc j'entends bien qu'il y a deux versants de la politique juive. Il y a la politique juive d'exil. Il y a deux versants de la politique juive, selon vous. Donc il y a la politique juive d'exil et la politique juive de sortie d'exil. Et à ce titre, l'intention de Herzl, à travers son État juif, c'était de non pas d'être dans une politique de sortie d'exil, mais dans une politique d'exil. Et en remettant...
C'est une formulation que je reprendrai pas. Ce que je dis simplement, c'est que dans les conditions objectives d'Herzl, qui sont celles de la fin du XIXe siècle, il réactive, malgré lui et sans le savoir, une politique de l'alliance verticale à l'échelle mondiale.
C'est ça que je dis. Et quand je dis politique de l'alliance verticale, je veux dire politique en exil.
Des juifs orthodoxes, parce qu'il n'y a pas une pensée, il y en a plusieurs, certains se sont trompés dans l'interprétation, en tout cas se sont trompés sur les intentions de Herzl et d'autres, des fondateurs de l'État d'Israël, pensant que c'était une politique de sortie de l'exil.
Oui.
Mais en fait, la question que je me pose, c'est que quand on est un décisionnaire halakhique ne va pas juger selon l'intention, mais va juger selon les faits. Et on peut voir par exemple. Chez Rav Obadiah Yosef, sur des questions qui semblent anecdotiques, comme par exemple, est-ce qu'on doit payer l'impôt qui émane de l'État d'Israël ? Il va passer par un raisonnement juridique qui comprend la question, faut-il assimiler l'État d'Israël à un souverain juif ? Et la réponse qu'il va donner est positive, il va dire oui, il faut dire que l'État d'Israël, son statut est assimilable à un souverain juif, et par conséquent, il faut payer l'impôt qui émane de l'État d'Israël. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que l'État d'Israël est coincé dans un étau interprétatif entre un certain public, certains décisionnaires orthodoxes qui vont s'appuyer sur les faits pour juger de la forme politique d'Israël et d'autres qui, justement, s'en tiennent aux intentions. Donc là, un conflit interprétatif.
Disons, je suis d'accord. D'abord, les juifs payent l'impôt à l'État pas juif. Toute l'histoire juive. Donc, vouloir savoir si on va le payer aussi aux juifs
me paraît un peu à regarder de plus près. Hein. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que souvent, ces grandes questions, comme toujours dans la tradition, entrent par des questions de où il faut statuer pratiquement sur quelle est la règle à suivre en matière d'impôts, des choses comme ça. Ce que je veux dire, bon, Ovadia Yosef, c'est quand même un cas particulier. Hein. Et d'ailleurs, la politique du chasse a été particulière aussi. Le chasse a voté pour le désengagement à Gaza en 2005.
Merci beaucoup pour votre intervention. On voit que vous avez vraiment recherché des sources à la politique juive, hein, des sources dans la tradition. Et on est toujours en Allemagne hein, quand on recherche ces sources-là, comme vous l'avez fait. C'est-à-dire, et comme par hasard, ce sont des rabbins hein, qui sont les plus novateurs en réalité dans cette dimension. Mais moi, à la différence de madame,
votre intervention a opacifié les choses pour moi. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que il y avait une question qui est restée obscure finalement, et je vais essayer de la formuler. En fait, vous avez donc fait référence à Yerushalmi, et dans cette question, toujours à laquelle on se réfère toujours, l'alliance verticale. Mais Yerushalmi, quand il cite cette alliance verticale, il la cite dans un rapport critique, c'est-à-dire qu'il dit, enfin, en se moquant un peu des Juifs, de la naïveté des Juifs, qui à chaque fois ont cru à cette alliance verticale, alors qu'à chaque fois elle a été trahie. C'est-à-dire elle a été trahie en Espagne, avec l'Inquisition, première trahison, et ils ont continué quand même à y croire. Ensuite, elle a été trahie en Allemagne, avec la Shoah, alors qu'ils ont continué à y croire. Et donc, sa réponse, si j'ai bien compris, c'est l'État d'Israël qui est le gardien d'Israël. Donc, j'en étais restée là, si vous voulez, et j'ai été restée là par rapport à votre livre « Persévérance du fait juif ». Donc, là-dessus est arrivé le 7 octobre, qui nous a tous beaucoup, beaucoup bouleversés. Et donc, la question qui se pose... C'est qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est de ce gardien depuis cet événement qu'on a beaucoup de mal à qualifier ? Ça, c'est la première question, c'est le premier versant de ma question. Deuxième remarque, observation, c'est par rapport à la remarque de Rachi que vous avez faite et qui me semble absolument au centre du sujet. Puisque Rachi, le premier commentaire quand on ouvre la Torah, c'est « on va vous traiter de voleur ». Il écrit ça au Moyen-Âge, on est très loin du sionisme, on est loin de tout ça, et il voit qu'on aura notre terre, qu'on sera sur cette terre, et que quand on sera sur cette terre, on va nous traiter de voleur. On le voit aujourd'hui. Et il dit, la conséquence pour Rachi, c'est de dire « on n'aurait donc jamais dû commencer par Bereshit », par le livre de la Genèse, qui ne sert apparemment à rien, on aurait dû commencer par Vaïkra, qui est le livre qu'on traduit par l'Exode, mais qui serait en fait le livre de l'exil. Shemot, qui serait en somme le livre de l'exil. Hein. Donc on serait dans notre sujet, là. Et effectivement, quelle est la différence entre ces deux livres ? Dans Shemot, effectivement, c'est la constitution du peuple. On assiste à une sortie justement d'Égypte, et on est, et c'est là qu'apparaît pour la première fois le nom, le concept de Bnei Israël, donc de peuple qui n'existait pas avant, et ce concept de peuple intègre beaucoup d'autres peuples, pas seulement les Hébreux. Donc la différence entre le livre de la Genèse auquel renvoie Rachi, puisque le commentaire de Rachi dit « Attention, quand on va vous traiter de voleur, votre réponse sera « C'est Dieu qui a donné la terre, donc on revient à la question de la terre, et il la donne à qui il veut. » Donc il nous renvoie à un mystère, le mystère de la création, à quelque chose de très universel, de très général, alors que dans le livre de Shemot, on est dans quelque chose de communautaire, on est dans le monde des Juifs, en somme, dans le monde des Hébreux, enfin des Bnei Israël. Et tout votre raisonnement, mais je suis en train d'élaborer ça en même temps que je vous parle, est-ce que ça signifierait pas qu'un jour, il y aura une fin du peuple juif ? Parce que votre raisonnement suppose que les Juifs vont rester toujours un peuple, ils vont rester toujours les Juifs. Or, peut-être que dans le raisonnement de Rachi, il nous dit ben, « un jour, on va revenir au temps des Hébreux » dans le livre de la Genèse. La notion de toutes les autres choses seront abolies et on sera dans quelque chose de beaucoup plus universel, de beaucoup plus général. Et ce qui me fait penser aussi à ça, c'est l'actualité. Parce que finalement, ce qui se passe dans l'actualité, si on ne s'occupe pas que de notre histoire juive avec l'antisémitisme que nous connaissons tous... Mais moi, je suis très frappée de la concordance des problématiques. Je suis très frappée d'entendre que ces histoires de migration, d'émigrés, etc., ça rappelle terriblement, et d'exil, donc d'être exilé chez soi, ça rappelle terriblement des problématiques du peuple juif. ces questions d'exil, ces questions d'intégration, etc., c'est les questions aussi de la droite, de la gauche, etc., tout ça aujourd'hui, ça forme quelque chose qui me semble de plus en plus homogène avec ce qui se passe en Israël. Voilà, je m'arrête là et je vous ai dit mes observations, mes questions.
Alexandre, s'il y a encore une question, je préfère qu'elle soit posée et que Dany essaye de conclure en répondant aux dernières questions.
Oui, mais ça...
Allez-y.
Yvan.
Oui, Dany, je profite en fait de te poser oralement une question que je t'ai un peu posée par écrit. C'est-à-dire que donc, dans ton raisonnement, il y a deux temps. Il y a le temps un peu contemporain et la manière dont tu le réinscris dans une dynamique historique. Et sur cette dynamique historique, l'endroit où je suis gêné, c'est que dans ton schéma, donc, il y a la populace, le pouvoir et puis les juifs. Et finalement, ce que tu sembles théoriser à travers Yerushalmi, c'est un peu la pulsion pogromiste de la populace. Mais à la fois historiquement et théoriquement, c'est partiel, parce que théoriquement, la figure de l'antisémite dans la tradition n'est pas la populace. On dirait, je ne sais pas comment tu traduiras en hébreu, mais dans la tradition, c'est près de Pharaon, Amalek, Aman, Nabucodonosor, toute la tradition envisage, ou la question des Arba Malchuyot, envisage la haine du juif, non pas du point de vue de la populace, mais au fond, on pourrait presque dire, fondamentalement, l'action du pouvoir. On pourrait dire que le pouvoir est antisémite, que l'antijudaïsme est un mode de gouvernement à travers l'histoire. Et d'ailleurs, toute l'histoire du christianisme et aussi de l'islam le montre. Donc il y a une institution d'antijudaïsme. Donc ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, la question de la populace comme pulsion pogromiste, elle a sa vérité historique, mais fondamentalement, ce n'est pas le concept fondamental. Donc à la fois théoriquement et historiquement. Ce qui fait que, autant je trouve très féconde ta lecture de l'État d'Israël comme état d'exil, ce qui est ce à quoi tu veux arriver, donc là-dessus je trouve ça très fécond, très pertinent, mais la manière dont tu t'appuies sur le Yerushalmi pour le construire, c'est avec quoi je suis un petit peu, en désaccord ou pas complètement convaincu.
Je crois qu'il y a une question de Maëlle.
Merci, Dany, pour cette présentation. J'avais une question sur la distinction entre donc la politique de sortie de l'exil et la politique de l'exil, parce que donc plus on s'éloigne dans le temps, dans la donc par exemple de la possibilité ougandaise, enfin voilà, de l'autre, donc de la dissociation du projet sioniste à la terre, plus on dirait que cette possibilité qui a existé est oubliée et que ce serait pour ça en fait que ce serait la politique, on penserait de plus en plus, enfin, en termes de nombre, le sionisme comme une politique de sortie de l'exil. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'oubli, ou est-ce qu'on peut l'expliquer autrement, le fait que ça prenne le pas en fait et que ça occulte le fondement du projet sioniste tel que tu l'as décrit.
Rosie et Gabriel.
Oui. Alors on fait.
Je me concentre sur les questions et je note juste.
Ouais, je comprends, je comprends.
De m'en souvenir.
Bon, alors, c'est pas grave.
Si tu t'embêtes pas, je vais pas faire des réponses longues parce qu'il était à. Je commence par peut-être la fin, Maëlle. Non, c'est une bonne question. En fait, l'Ouganda, c'est un symptôme. Tu vois, l'Ouganda, c'est un symptôme d'un genre de rapport que les sionistes ont établi avec l'idée de la possession d'une terre. Parce qu'il n'y a pas eu que l'Ouganda. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement sioniste, c'était un mouvement... En fait, l'activité d'Herzl, c'était chercher une terre n'importe où. On a tout tenté. À un moment, il y avait un peu l'Argentine. À un moment, voilà. Il y
Le truc à la riche, donc pas loin. Mais, je veux dire, c'est la dimension de oui, c'est ça. Il y a quelque chose de fortuit, faussement fortuit, dans le fait que, pour finir, c'était en Eretz Israël. C'est faussement fortuit, mais il ne faut pas oublier le fortuit aussi dans le faussement fortuit. Bon, voilà. Je pense pas que. Je pense que c'est très important de le retenir, non pas parce qu'il faut avoir la nostalgie de la possibilité que ce soit en Ouganda ou ailleurs, c'est simplement que l'impulsion du mouvement sioniste, c'était quelque part. Et donc, quelque part, c'était la sortie de l'Europe. C'est ça qui est important. C'est en Eretz Israël, mais c'est en même temps commandé par la sortie de l'Europe et éventuellement n'importe où. Sortie de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe arrivée au dernier stade où, en fait, la promesse de l'alliance verticale se renverse en son contraire. Sur le pouvoir. Donc, ce que tu me dis, c'est, en fait, fait un portrait un peu unilatéral des sources de l'hostilité et pour finir tu insistes énormément sur la question de la populace et pas tant sur un pouvoir qui effectivement pouvait être hostile. Écoute, je pense que parce que, prends le cas d'Esther, qui est paradigmatique, parce que c'est un récit qui est absolument explicite, voilà, qui se déroule à l'extérieur. Donc, les Juifs, ils ont lu Esther comme ça, tu vois, ça leur sautait aux yeux que ça avait quelque rapport avec leur situation, puisqu'ils étaient aussi à l'extérieur. Aman, c'est pas le pouvoir suprême. Eh bien, c'est pas la populace, c'est un pouvoir intermédiaire.
Si tu prends sur Esther, Mordechai, c'est celui qui va susciter l'antisémitisme sur le décret d'extermination parce qu'il se refuse de se prosterner devant celui qui se représente comme étant la figure du pouvoir divinisé.
C'est vrai. Prends un cas extérieur.
C'est pas le roi, mais dans l'alternative entre le roi et la populace.
Et c'est pour ça. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de midrashim qui critiquent fortement Mordechai de la même manière, lui rappelant que devant Esav, précisément, on a courbé les chines, on s'est prosterné devant Esav, Jacob s'est prosterné devant. Donc, le problème que tu évoques, c'est juste, mais il est complètement retravaillé dans la tradition. Maintenant, quand tu dis Amalek, Aman c'est, je veux dire, la superposition Aman-Amalek, elle est faite constamment dans les Midrashim. Donc là, ce n'est pas un pouvoir Amalek, c'est une peuplade prise dans son... Mais prends le cas de l'Égypte avec la plaidoirie de Philon. Alors tu vas me dire, ce n'est pas dans le... Mais... Philon, c'est exactement la même structure. Philon, c'est un pouvoir intermédiaire. Et un pouvoir intermédiaire à Alexandrie, Hélicon, à Alexandrie, qui persécute les Juifs. Et où est-ce que Philon va devoir plaider ? Auprès de César. Il doit aller à Rome pour plaider la cause des Juifs. Contre un pouvoir. Mais que fait le pouvoir intermédiaire ? Le pouvoir intermédiaire suscite les émeutes de la foule. Tu lis Philon, c'est invraisemblable. Tu as toujours la même structure. La structure est la même. Prenons le Saint-Empire germanique. Okay, on prend 14, 15, 16e siècle, pendant 3 siècles. La structure est toujours la même.
le Saint-Empire, ce sont des villes libres, ce sont des comtés, c'est un espèce d'émiettement de pouvoir enchevêtré, etc. Pour les Juifs, le problème commence toujours localement. On va dire c'est les autorités, c'est la populace, c'est les pouvoirs intermédiaires qui laissent faire ou qui suscitent. Les deux sont possibles. Que fait le Shtadlan ? Et que fait le plus grand des Shtadlan de notre histoire ? Josel von Rosheim. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le personnage. Donc c'est l'époque des guerres de religion aussi. Josel von Rosheim va plaider la cause des Juifs. Local, hein, pour chaque cas, on l'appelle. Et il va vers l'empereur. Et c'est l'empereur qui dénoue le problème. Pourquoi est-ce que l'empereur le fait ? Alors, l'empereur et parfois le pape. Pourquoi ils le font ? Parce qu'en fait, les Juifs sont un enjeu dans la rivalité des pouvoirs entre les pouvoirs locaux et le pouvoir suprême. Le pouvoir suprême donne une marque de pouvoir à ses pouvoirs inférieurs en se gardant la décision sur le sort des Juifs. C'est pour ça que les Juifs, hérités du Moyen-Âge, sont le trésor du roi. C'est le trésor du roi, ça fait partie de ses biens, quoi. C'est sa chose. Donc, c'est pas pour dire que tu as tort, tu vois, mais c'est pour te dire que quand même, la dominante, c'est pas exclu qu'il y ait un pouvoir, d'ailleurs... Les rois de France ont bien expulsé les Juifs. Je veux dire, les expulsions sont nombreuses. Tous les cas d'expulsion sont des échecs de la politique de l'alliance verticale. Le plus grand échec, c'est l'Espagne. Bon, alors j'en viens à votre question. C'est l'Espagne. Et donc, c'est pas étonnant que le contre-coup de l'Espagne, ça a été politique messianique. Hein, elle a été très puissante pendant de nombreuses décennies. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et pourtant, Yerushalmi dit, ils se sont installés, la plupart d'entre eux, dans l'Empire ottoman. Et dans l'Empire ottoman, ils ont fait exactement la même chose avec le sultan. Ils ont repris exactement. Et non seulement ils ont fait la même chose, mais ils ont cherché des excuses. Ils ont eux-mêmes fourni des excuses en disant qu'en réalité, le roi d'Espagne et même du Portugal... étaient mal influencés. Ils ont, tu vois, faute d'alternative, ils se sont dit, en fait, c'est l'alliance avec le pouvoir suprême qui est quand même la meilleure garantie. Quelquefois, en se racontant des histoires, il y a un très bel article sur la période post-expulsion d'Espagne, et Yerushalmi pose la question. Il dit, mais ça rate. Et pourtant, il sauve le roi. Pourquoi est-ce qu'il sauve l'idéalité de l'alliance, tu vois, l'espèce d'idéalité de l'alliance avec le pouvoir suprême. Ils le font parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Voilà. Tu as raison. Aussi.
Il y a aussi des Turcs qui pourraient dire que l'anti-judaïsme était un mode de gouvernement, aussi dans l'histoire du christianisme, mais dans une mesure différente dans l'histoire de l'islam, qui fait que ce qu'on appelle le roi, qui vient, c'est vraiment il y a une formule, tu as dit le roi, il vient, il hérite du roi des rois. Mais il n'hérite pas, il usurpe.
Il usurpe.
C'est l'usurpateur.
Ah non, tu as tout à fait raison. Il usurpe de la même manière que le roi usurpe le pouvoir dans Samuel. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus, je me suis mal fait comprendre. C'est-à-dire qu'il y a là c'est une politique très sous-optimale. Tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le fait que dorénavant, le roi Meller Bassar Vadam, avec toute la majesté, hérite, tu vois, de manière... Ce n'est pas du tout ça. C'est que, en fait, quelque chose doit passer de l'un à l'autre pour que ce soit possible, tu vois, pour que cette alliance puisse être faite et qu'elle soit le plus efficace possible. Et donc, il y a et d'où aussi le rôle extrêmement important d'être bien introduit à la cour. Ça permet au roi qui est versatile, tu vois bien, Achashverosh, il est versatile, un jour il dit ça, un jour il dit ça. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un là, dans les sphères du pouvoir, qui puisse l'orienter convenablement dans ses décisions, tu vois. Mais tu as raison, populace, c'est peut-être un peu réducteur. Ce qu'il y a, c'est que la manifestation de cette hostilité, elle prend la forme de l'émeute, généralement. Mais la manipulation du pouvoir, voire du pouvoir suprême, elle est là. Et ça, c'est une des crises de l'Europe de l'Est. Et c'est la cause de l'alliance horizontale. À la fin du XIXe siècle, où les Juifs se sont dit, en fait, on va arrêter de compter sur l'alliance avec le tsar et on va faire alliance avec les autres minorités. Et les autres minorités opprimées, soit le mouvement ouvrier, soit les peuples en voie de libération à l'intérieur de l'Empire. Mais on sait ce qui s'est passé des Juifs dans cette configuration aussi. Donc, déception sur l'alliance horizontale. C'est Hannah Arendt qui a dit à un moment, oui, bon, alliance verticale, et pourquoi pas l'alliance horizontale? Mais l'alliance horizontale, elle a existé. Elle a été très puissante. Et je pense que le sionisme ne peut se comprendre que par la double impasse, c'est-à-dire crise de l'alliance verticale et crise aussi des tentatives d'alliance horizontale, surtout à l'est de l'Europe, parce qu'on est dans le cadre d'un empire. Tu vois ? Rashi, il a dit qu'il aurait fallu tuer Bar Kamsa. J'ai lu les commentaires de Rashi. Son commentaire, là, c'est Bar Kamsa, il va aller dénoncer les Juifs là-bas. Commentaire, il aurait fallu tuer Bar Kamsa. On aurait liquidé le... C'était sa solution.
Je vais commencer, Gabriel.
Merci. Mais, le pouvoir est dangereux. C'est la prémisse. Il est dangereux. Ça, c'est vraiment la prémisse.
Justement, sur le danger du pouvoir, comme vous dites, en fait, après tout ce que vous avez dit, ce que je comprends, c'est que, en fait, en exil, il y a une oblitération du divin. Parce que Dieu fusionne avec le roi local.
Il fusionne pas, mais...
Il y a un transfert, en tout cas. Ouais. Mais pourtant, la politique messianique ne se passe pas de représentants. Mais c'est simplement que Dieu représente la dernière instance du pouvoir. La transcendance surplombe quand même le côté arbitraire du pouvoir. Et finalement, l'exil, la politique en exil des Juifs réduit le transcendant au représentant du pouvoir. Et c'est peut-être en fait le phénomène de l'exil, de la politique des Juifs en exil, pourrait s'expliquer comme ça. L'exil réduit le transcendant au représentant. Et finalement, en quoi consiste la réelle élection d'Israël, le front éclairé, comme vous disiez, vous parliez de l'antipopulace, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que ce front est éclairé d'Israël? C'est justement mettre Dieu comme dernière instance du pouvoir. Mais est-ce que ça veut dire que, comme un pouvoir impérialiste qui domine, ou au contraire, voir le divin, le transcendant, comme une alternative au pouvoir, comme un regard critique sur la loi et sur l'arbitraire de la gouvernance. Voilà. Et que la politique messianique, au lieu de représenter l'impérialisme, devrait représenter un pouvoir où il y a Dieu comme une dernière instance de ce pouvoir-là.
Je prends juste Rosie, et comme ça c'est la dernière question, qui nous fera d'ailleurs vivement sonner d'intervenir au mois de mars. Ah bon, elle veut plus. Elle veut pas.
Rosie ?
Moi, je veux juste remercier, je n'ai pas de questions, j'ai beaucoup de questions.
Je suis incapable de le formuler aussi brillamment que toi. J'ai adoré absolument ton raisonnement, l'articulation d'un bout à l'autre. Il me reste une question dans le triangle. Dans la relation verticale de l'élection par Dieu d'Israël, je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment que les nations sont mises de côté. Elles ne sont pas élues. Donc, moi, ce qui me pose problème, là, tout à la fin de ton exposé, c'est ce troisième élément, c'est la naissance du triangle. Que fait jusqu'aujourd'hui Israël parmi les nations? Nous ne savons toujours pas parler avec les nations.
Sûr, ce serait bien qu'on bavarde après, ou pas sûr de bien comprendre votre question. Simplement, il faut comprendre par politique messianique, je veux rien dire de particulier. Enfin, c'est pas quelque chose de très déterminé. En fait, la politique messianique, c'est la structure d'attente. C'est la structure d'attente. C'est pour ça que elle ne se manifeste, ne s'actualise que dans des moments qui ont été des moments de crise forte. Mais autrement, c'est elle qui vectorise l'histoire juive. C'est elle qui le vectorise. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la peine. L'exil n'a de sens, et c'est pour ça que dire aujourd'hui tout le monde fait les immigrés ont fait l'expérience de l'Église, non, de l'exil, non, parce que l'exil, c'est par définition un châtiment, et c'est par définition un espoir de restauration, un espoir de fin de l'exil. Donc la fin de l'exil, c'est une politique très importante, mais elle ne se matérialise, elle ne s'est matérialisé dans l'histoire des Juifs que par séquences qui généralement ont été catastrophiques. Mais normalement, Messie, c'est celui qui délivre Israël. Messie, c'est celui qui délivre Israël. Voir toutes les discussions autour de Bar Korba.
Il y a un exil à la fois géographique, avec une situation, disons, matérielle, extérieure, et puis il y a aussi la galoute existentielle, si je puis dire. Et s'il n'y a pas à un moment donné une congruence, une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, les deux formes de galoute persisteront. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme ça?
Oui, je ne sais pas ce que vous appelez par existentiel. Mais c'est pas. Il faudrait le déterminer avec plus de précision. Et donc, tu vois, la position que je propose, c'est une proposition qui continue de tenir compte des coordonnées de l'histoire juive, et donc ce n'est pas du tout la version, c'est pour ça que la plupart des sionistes standards n'ont pas aimé le livre, parce que ça écarte l'option normalisation. Si tu l'inscris dans l'histoire juive, il ne peut pas y avoir de normalisation, donc il ne peut pas y avoir d'État-nation, donc il ne peut pas... Non, c'est pas l'intérêt. Et pourtant, il y a des sionistes qui n'ont pas arrêté de répéter la parole de Samuel, « Donnez-nous un roi pour qu'on soit un peuple comme tous les autres peuples », tu vois. Et c'est pas du tout la direction qui est suivie là. Non, c'est la garder dans la tension de la politique juive et qui a aussi la politique de sortie de l'exil comme une de ses coordonnées régulatrices.
Nani, merci. Merci de...
C'est moi qui vous remercie.
De votre patience et de la tentative de nous éclaircir, même avec des schémas. Je crois que c'est la première fois qu'on a eu un autre... Mais c'était moins mathématique, en prenant le pari d'ouvrir cette année, que nous avons voulu marquer par une tentative de réflexion sur l'impact de ce qui a été commencé le 7 octobre, une nouvelle page de l'histoire juive.
Alors, et pour le 7 octobre, si je peux faire un peu de publicité, si vous me le permettez, dans les jours qui viennent, va sortir un ouvrage qui s'intitule « La fin des illusions » et qui est une émanation d'un livre de textes qui sont parus dans la revue K, où il y a, et au cœur du sujet, c'est dans quel monde on vit dans l'après 7 octobre. Donc ça répond à la question sur le 7 octobre. L'ouvrage va être c'est aux presses universitaires de France, il paraît dans quelques jours, je pense, il sera en librairie. Il est fait pour... ils ont marqué la première année après l'événement.
Merci d'avoir accepté. Je voudrais remercier Alexandre qui non seulement court pendant les conférences pour faire passer le micro, mais